Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h. Avec moi ce soir, Caroline Pilas, bonsoir à vous.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous.
Consultante dans le domaine du handicap visuel, Jean Dorido nous a rejoint aussi en studio. Bonsoir Jean.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous.
Je rappelle, vous êtes docteur en psychologie, auteur de ce livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse, fondateur de l'application Zenfi. Et puis il est toujours zen aussi, le marteau de la justice sur Sud Radio. Philippe Bilger, que vous entendez à l'instant. Bonsoir mon cher Philippe.
Bonsoir Jean-Marie.
Magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. J'espère que tout le monde a profité des week-ends entre deux averses un peu partout. Des terrasses entre deux averses ce week-end, redisons-le dans l'ordre.
Vraiment entre deux averses.
C'est ça, exactement. Notamment Philippe Bilger qui les a inaugurés, vous l'avez entendu, en direct d'une terrasse avec voilà. Les vraies voix. Sud Radio, chers amis, s'en est passé des choses ce week-end, notamment sur Sud Radio et notamment sur le plan sportif. Écoutez, c'était sur Sud Radio ce samedi avec Daniel Herrero et Alexandre Priam.
10 secondes pour les Toulousains, à 10 secondes du titre pour le Stade Toulousain. Et c'est envoyé en touche, attention, c'est pas terminé, non, il s'est trompé, Romain Tabac. Il a voulu taper en touche, mais il n'y est pas allé du coup, parce que c'était tout simplement pas terminé. Est-ce qu'il se fait gratter? Non. Le ballon pour les Toulousains, et c'est gagné. Le titre, le cinquième pour le Stade Toulousain, le cinquième titre européen sur le toit de l'Europe, le seul club en Europe à avoir ce statut.
On espère d'ailleurs qu'Alexandre Priam, qu'on embrasse au passage, a retrouvé sa voix depuis ce samedi.
Cinquième ça valait titre, la peine.
Ça valait la peine. Quel match c'était oui. sur Sud Radio, Philippe Bidger.
Pas un beau match, mais âpre, rude, intense, formidable.
Avec cette victoire du Stade Toulousain à la fin sur La Rochelle, Jean.
C'est extraordinaire. C'est vraiment
extraordinaire.
S'il en était besoin.
Ouais. Mais La Rochelle était formidable.
Oui, aussi. Absolument, parce qu'il faut le dire quand même, le Stade Toulousain est au rugby, ce que le Bayern de Munich est au football, et les Rochelais touchent trois fois les poteaux, ils perdent de 5 points alors qu'ils ont
et
perdu
ils jouent sur à les 14,
poteaux. Ils jouent à 14 pendant une
mais
heure.
Ils n'avaient pas Antoine Dupont.
Ils étaient absolument admirables. C'était un grand moment à vivre sur l'antenne de Sud Radio. Effectivement, allez, un autre sport aussi, on en reparlera. Ça se passe en ce moment, c'est du côté de Lille. Au programme, chers amis, des vraies voix ce soir. Le président Emmanuel Macron qui s'affiche avec des youtubeurs, McFly et Carlito, idole des adolescents. Est-ce que c'est bien joué pour le président ou est-ce que c'est déplacé? Et puis notre grand débat. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, est-ce qu'il a raison de porter plainte contre la tête de liste socialiste Audrey Pulvar après ses propos contre la police? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. Mais tout de suite, hélas, direction la Moselle où vient juste de se produire un nouveau féminicide, un énième féminicide, j'ai envie de dire, absolument glaçant.
Tu sais à quoi je pense?
Je pense pas que...
En tout cas, tout de suite, on en parle. C'était cette nuit à Hayange, dans la Moselle, juste devant un commissariat qui était fermé parce que c'était la nuit, qu'il n'y avait personne dedans. Un homme assassine son ex-compagne de 5 coups de couteau, sa compagne de 5 coups de couteau, alors même qu'il était censé rester à la maison sous bracelet électronique à cause d'une condamnation pour délit routier. Bonsoir, Autoclair de Sertine.
Bonsoir.
Référente Bonsoir. Femme en danger à l'Union nationale des familles de féminicides. Ce nouveau féminicide dans la Moselle qui arrive quelques semaines après celui non moins glaçant de Mérignac.
On constate clairement une accélération en ce moment des féminicides. Il y en a de plus en plus. On pense que ça peut être dû au déconfinement et au fait que les femmes partent maintenant, puisqu'il y a moins, on est en sortie de crise sanitaire. Donc elles reprennent espoir, elles partent et on sait que la séparation, c'est un moment de pic de danger et où il y a souvent des passages à l'acte à ce moment-là.
Et l'homme violent, du coup, passe à l'acte. C'est ainsi que vous le lisez. Le meurtrier, qui est toujours en fuite à cette heure-là, je le rappelle, il était censé être en détention à domicile sous surveillance électronique. C'était un bracelet électronique. Manifestement, il l'a arraché. C'était un aménagement de peine d'un an de prison ferme pour des délits routiers, pas pour des violences conjugales. Il aurait arraché son bracelet. Est-ce que ça veut dire que le bracelet, du coup, que ce soit pour les femmes en danger ou pour n'importe quoi d'autre, il ne sert à rien, Autoclair de Sertine?
Alors, le bracelet anti-rapprochement s'est rendu compte il y a quelques jours lorsque notre présidente est allée au Omniprof qu'il était très difficile à mettre en place et que notamment les victimes demandaient qu'on l'enlève à cause des alarmes, des déclenchements d'alarmes, parce qu'il faut savoir qu'un bracelet anti-rapprochement, c'est une zone de 20 km. Or, si vous faites d'est en ouest Paris, ça fait que 18 km.
Par exemple.
Un exemple, voilà. Donc en zone urbaine, c'est compliqué parce que forcément, vous allez vous croiser à un moment donné et que vu que le périmètre est très large, ça va déclencher des alarmes et elles vivent de fait dans la peur. Et ensuite, on sait aussi que dans certaines zones, quand ils sont sur une zone, par exemple, l'auteur est en zone gendarmerie et la victime en zone police, on ne peut pas l'appliquer parce que c'est pas les mêmes circonscriptions.
Donc ça fait aussi un énième problème. Et quand bien même on arrive, même si c'est pour un autre motif, hein, je le rappelle, le bracelet qu'avait le meurtrier de la Moselle n'était pas, n'avait pas été imposé justement pour limiter les violences conjugales, et bien même quand on y arrive, manifestement, il arrive à s'en défaire. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen particulier pour protéger une femme qui est sous la menace de son compagnon ?
Alors, il y a des moyens, mais pas encore assez. Et on manque, enfin, de toute façon, d'effectifs de police en France. Mmh. Et là, effectivement, normalement, quand quelqu'un met un bracelet qui est une alternative à la détention, quand quelqu'un l'arrache, ça déclenche une alerte. Mais le temps d'intervention est long. Et là, ça s'est passé en face d'un commissariat fermé.
Qui était fermé parce que c'était un Philippe Bilger.
Et puis, en fait, d'abord, il n'y a pas assez de bracelets. Ensuite, ils ne marchent pas parfois. Ensuite, vous venez de le rappeler. On peut les arracher. Et ensuite, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, la malheureuse victime avait déposé plainte auprès d'un procureur à Thionville qui, semble-t-il, n'avait pas transmis la plainte au procureur de Metz. Donc, il y a une série, là, de dysfonctionnements. Et si j'étais garde des Sceaux, j'ordonnerais pour une fois une inspection qui aurait du sens, c'est-à-dire que je sanctionnerais celui qui a failli.
C'est ça, d'autant plus que la série de dysfonctionnements a été aussi dénoncée après l'autre féminicide, celui de Mérignac, il y a deux semaines. Jean Dorido.
Oui, non, bah, je crois déjà qu'il faudrait en parler à notre garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, qui avait parlé de sentiment d'insécurité. Donc il faudrait demander à cette dame si elle a un sentiment d'insécurité.
Bon,
on ne peut plus le faire
demander,
parce qu'elle est morte, elle a été assassinée. Et sur la question de la crise sanitaire qu'on vient de traverser par rapport aux propos de Mme Haute-Claire de Sertine, il ne faut pas se tromper sur les mots. Ce n'est pas le problème du déconfinement, c'est le problème du confinement. C'est-à-dire que là, les Français vont très très mal et il ne faut pas tomber dans le piège du marketing des victimes. Ce qui se passe avec les féminicides, c'est ce qui se passe chez les adolescents. On a Marjorie qui a été poignardée il y a encore peu de temps parce que les mômes sont dans un état complètement déplorable après plus d'un an d'enfermement et on a de façon généralisée, une violence qui augmente. On a vu effectivement Chahinez à Mérignac qui a été brûlée vive. C'est vrai chez les adolescents, c'est vrai au niveau des féminicides et c'est vrai de façon générale. On a un état psychologique des Français. Les maltraitances auprès des enfants, c'est pareil, le 119, ça explose. Vous parlez aux travailleurs sociaux, aux éducateurs, ils vous disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc, si vous voulez, tout le monde va mal. Et donc, forcément, on a des passages à l'acte absolument sordides.
Ouais, enfin, de là à dire que des gens étaient...
Mais tout le monde pas un
tout le monde
violent,
ne donne pas 5 coups de couteau à sa compagne.
Et puis les violences n'étaient pas rares avant le confinement non plus.
Non, simplement les chiffres, ça existe et on voit que ça explose, on voit que ça augmente et c'est important de prendre en compte sans basculer dans une espèce d'extrémité, de dire tout le monde ne passe pas à l'acte, d'accord. N'allons pas disqualifier les personnes qui certes des criminels et qui sont aussi en même temps des symptômes d'une population française qui va extrêmement mal par rapport à la période dont on est en train de sortir.
Caroline Piaz, enfin, dans
quelques
instants.
Pour moi, il y a une défaillance, rapidement, il y a une défaillance humaine, il y a une défaillance administrative. Je vous rejoins, Philippe, sur cette question. Il faut des sanctions à la hauteur du crime, comme ce qui se passe en Espagne, où ils ont vraiment pris le problème à bras-le-corps. Il faut vraiment que ce soit une priorité, et pas uniquement en parler en termes d'éléments de langage. Rendez-vous compte, on en est au 43e féminicide depuis le mois de janvier. Donc c'est un problème de fond qui est catastrophique. Et on ne peut certainement pas s'habituer à des faits divers aussi abominables que cela. Mais il faut vraiment prendre le problème à la racine et qu'il y ait véritablement une sanction à la hauteur. Je suis désolée parce qu'on en parle régulièrement ces derniers temps. Alors que la crise soit compliquée pour certaines personnes qui sont borderline, que ce soit des révélateurs, les histoires de confinement, certes, mais il y a quand même un problème psychologique qui est grave et surtout, ces femmes doivent être mises à l'abri parce qu'elles ont surtout porté plainte précédemment. Je veux dire, ce sont des récidivistes, ces hommes.
Et là, ce n'était pas en tout cas transmis. Aude-Claire de Sertine, vous êtes toujours avec nous, hein, je le rappelle. Cet homme avait déjà été sanctionné pour autre chose que des violences conjugales. Un an de prison ferme, tout le monde n'écope pas d'un an de prison ferme, même si, et encore moins d'ailleurs pour des délits routiers. Et malgré ça, la peine a été aménagée, comme toutes les peines de moins de 2 ans. Celle-ci, c'était un bracelet électronique, ça n'a servi à rien. Comment on protège, du coup ?
Alors, on peut protéger en évaluant correctement le danger. C'est une personne qui, visiblement, alors d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, avait été condamnée notamment pour des violences. Quand sa compagne va déposer plainte pour des faits de menace, il faut absolument qu'immédiatement le danger soit évalué correctement. Parce que cette dame aurait dû être mise à l'abri du fait de la dangerosité de monsieur qui avait déjà un casier judiciaire assez chargé.
C'est ça, exactement. Un casier judiciaire long comme le bras, si j'ose dire. Il était arrivé en France, il l'est toujours, et en fuite d'ailleurs de nationalité serbe. Merci Aude-Claire de Sertine d'être intervenue ce soir sur Sud Radio. Référente femme en danger à l'Union nationale des familles de féminicides. On n'aime jamais d'ailleurs vous donner la parole parce que c'est toujours dans des circonstances pareilles, mais on reprendra bien entendu de vos nouvelles plus tard. Merci à vous d'avoir pris la parole. Merci. Sur Sud Radio. À suivre dans Les Vraies Voix Sud Radio, le président qui s'affiche avec 2 youtubeurs idoles des adolescents. Est-ce que c'est bien joué ou est-ce que c'est déplacé ? On a besoin de surmonter le moral d'ailleurs, que ça nous plaise ou pas. Est-ce que ça vous a plu, tiens Philippe Bigère, cette vidéo Emmanuel
lamentable.
Macron ? Lamentable. Lamentable. Pourquoi lamentable ? Il vous le dit à partir de 17h30, ce sera le premier débat des vraies voix. Vous votez
on
sur le Twitter.
On aura un vrai débat, je
de
crois.
Sud Radio, justement. On aura un débat entre un Twitter et un youtubeur. Tiens, ce sera intéressant. Et dans un instant, le tour de table de Caroline Pilas. À qui sont vendues nos données de santé ? Sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h.
Les vraies voix Sud Radio, Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Jean Doreido jusqu'à 19h dans quelques minutes. Notre premier débat, est-ce qu'un président doit s'afficher avec des youtubeurs adolescents, idoles des adolescents ? Est-ce que c'est déplacé ou est-ce que c'est bien joué ? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826-300-300, mais tout de suite le tour de table de l'actualité.
Tu sais à quoi je pense ?
Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul.
Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table
de l'actualité.
Le tour de table de Caroline Pilastre. Caroline, vous avez été marquée par un documentaire de Cache Investigation il y a quelques jours sur France 2 qui nous apprend que nos données de santé, eh bien, elles sont revendues. On écoute.
Elle autorise les pharmaciens à collecter les données suivantes. Le numéro de sécurité sociale, l'année de naissance, le prénom, le sexe, ainsi que les données dites de délivrance, c'est-à-dire tous les médicaments achetés, pour les transmettre à une société américaine, IQVIA, un nom inconnu en France. Et pourtant, c'est le plus gros data broker de données médicales au monde.
Caroline Pilas, c'est quoi un data broker de données médicales ?
En fait, ce sont des entreprises privées qui revendent nos données pour des milliards, en fait, pour des publicités ciblées. C'est-à-dire que moi, j'ai été sidérée de ce cache investigation qui est passé il y a quelques jours, comme tu le disais, qui expliquait qu'à chaque fois qu'on se rend dans des pharmacies, nos données sont revendues. Donc ça, on s'en doutait, pour justement servir à ces gros data brokers qui sont américains. Alors là, on parler spécifiquement d'IQVIA, qui est la plus grosse société dans le domaine. Et c'est vrai qu'on se dit qu'on est espionné, on est effliqué partout. Et si on n'a pas envie justement que nos données soient revendues quand on va acheter n'importe quel produit via la carte vitale à la pharmacie, il faut préciser. Donc moi, désormais, c'est ce que je vais faire. En allant à ma pharmacie, je vais préciser. Alors,
comme
évidemment.
À chaque fois que vous arrivez sur Google, je ne consens pas à ce que mes données
tout
soient...
Tout à fait, parce que je trouve quand même que c'est une intrusion dans la vie privée, une de plus, et surtout qu'on ne nous met pas au courant, on ne nous demande pas notre consentement. Et ce reportage était extrêmement bien fait, alors on s'en doutait, mais là, comme c'était du journalisme d'investigation, on avait véritablement affaire à cette IQVIA, qui est un monstre, et qui a nos données personnelles depuis des années. Alors, quand on leur a demandé ce qu'il en était, parce qu'évidemment, ils avaient un droit de réponse, ils ont démenti en disant qu'ils n'avaient accès juste au genre de la personne
Monsieur
et à l'âge.
Monsieur et madame, ça, c'est pas très compliqué, l'âge. Hein. Ceci dit, on l'a notamment sur la moitié de nos profils Facebook, Philippe.
Je n'ai aucune raison de douter de ce que vient de dire Caroline, et au fond, je bats ma culpe. Je suis... trop peu attentif à ces risques et à ces dangers. Je dirais même que je m'en moque.
Ouais.
Mais je vais faire attention parce que j'ai l'impression de ne pas pâtir par ces révélations qui me concernent à partir du moment où, elles ne me paraissent pas nuisibles à mon égard, mais pourtant, je crois que je ne suis pas un citoyen, sur ce plan-là, assez vigilant.
Jean.
Mais alors, je suis. C'est-à-dire que je n'ai aucune raison de remettre en doute et les propos de Caroline, évidemment.
Mais surtout qu'elle s'investigue.
Et en même temps, je tombe de l'armoire parce qu'on est tellement à cheval sur les questions de RGPD en France, les fameuses règles sur la gestion personnelle de données. C'est tellement compliqué, je sais de quoi je parle. Vous avez parlé de mon application tout à l'heure très gentiment, Jean-Marie Bordry. Dès que vous posez
vous
une
gardez
question.
Quelle, vous gardez quelles données personnelles sur Zenfi?
Justement, pour le coup, voilà, on ne vend rien d'abord. Voilà, ça reste sur nos serveurs, chez nous. Maintenant, même de poser une question, de faire remplir un formulaire, dire est-ce que ça vous a plu, est-ce que tel programme de méditation est satisfaisant pour vous. Rien que ça, c'est vraiment, ça passe par une attention toute particulière, justement, pour ne pas être intrusif. C'est soumis à la réglementation européenne et française sur les données. La CNIL est très vigilante. Oui. Et donc, je n'en reviens pas que des officines de pharmacie, qui sont quand même très réglementées, monsieur Édouard Leclerc regrette de ne pas pouvoir vendre des autotests pour le Covid, par exemple. Parce qu'en France, on dit non, monsieur, ça, c'est chasse gardée. C'est pour les pharmaciens. Vendre une boîte de patch, il ne faut peut-être pas faire 20 ans d'études pour vendre une boîte de patch. Non. Ça, grande distribution, interdit, c'est pharmacien. Donc on a une population, les pharmaciens, c'est ultra réglementé, et j'apprends que nos données sont vendues. Mais à qui va l'argent? Effectivement, quand est-ce qu'on nous pose la question, monsieur, madame, vous êtes d'accord que je vende vos données?
Et via la carte vitale, je trouve ça absolument
C'est scandaleux et ahurissant.
La sécu, quoi.
Mais oui, c'est complètement...
C'est incroyable.
C'est complètement dingue. Ouais.
Vous êtes en tout cas tous tombés de l'armoire, plus ou moins. Toujours pas choqué, vous, Philippe Bilger, globalement?
Mais il faut que je le sois.
Non, mais c'est pas une injonction.
Il faut que je le sois parce qu'en effet, un citoyen vigilant l'est. Mais je n'aurais. Peut-être ai-je toujours sous-estimé ce problème de la communication des données personnelles dans la mesure où je ne vois pas concrètement le danger, le préjudice qui peut advenir en ce qui me concerne.
Le danger, c'est
J'ai une vision très détruite.
Quand vous allez voir qu'un type de médicament, par exemple, vous êtes un laboratoire, vous êtes riche à milliards, et puis vous dites, tiens, là, on a une molécule qui est peut-être intéressante, mais vous dites, mais oui, mais le marché français, par exemple, est-ce qu'on va vendre cette molécule en France? Comment vous faites pour savoir?
Vous n'en savez rien.
Vous êtes à l'aveugle.
Voilà.
Ou alors, vous achetez des données.
Mais
regardez Bilger.
Oui.
Ouh, ça va l'intéresser.
Oui, mais d'accord.
Bilger, il a consommé déjà ce genre de
choses. Mais Bilger, à la limite...
Il s'en fiche, il a le droit.
Laissez
l'homme qui s'en fiche nous expliquer pourquoi il s'en fiche.
Non, mais...
Il a le droit.
Caroline, vous vouliez dire que...
Non, je veux dire qu'en termes de secret médical, je trouve ça sidérant. Parce qu'à partir du moment où on va voir son pharmacien, c'est à lui... de nous demander si nous sommes d'accord, si nous acceptons peut-être que certaines personnes comme vous diront oui et que ça ne leur posera pas de problème. Mais moi, je veux savoir ce qu'il en est par rapport à mes données personnelles qui ne concernent que moi au niveau de ma situation médicale ou si je veux m'acheter n'importe quel autre produit. Mais c'est quand même de l'ordre personnel, une fois de plus.
Et si vous êtes assureur, c'est la même chose. Vous allez, je ne sais pas, vous voulez acheter un petit appartement, quelque chose. Bon, ben, on va vous faire un questionnaire médical, tout ça, c'est privé. Mais vous pouvez tout à fait être une assurance et dire, ah, alors, attendez, Bilger, il a pris tel produit à telle époque, ça se prescrit uniquement après telle intervention chirurgicale. Ça, on ne va pas lui vendre l'assurance, ou alors on va appliquer nos actuaires qui évaluent le risque, on va lui mettre le tarif plein pot, parce que, voilà, vous avez... compris que vous aviez une intervention.
Ça, c'est aller au bout de la logique qui est suggérée par ce documentaire. Ce n'est pas forcément encore le cas.
Mais on va, de toute manière, arriver là avec les GAFAM, c'est déjà le cas.
Les actuaires sont quand même forts en maths, ils savent évaluer les risques, mais pour évaluer les risques, il faut des données. Il y a des données qui sont dans le domaine public, il y a des données qui sont couvertes par le secret médical, et puis il y a des données qui sont revendues, et ça, c'est absolument écœurant.
C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a un marché sur notre dos.
Plus de secret intime possible.
La transparence.
On nous demande quand même d'être un minimum vigilant, prudent, sur nos données, justement, on n'est pas censé tout dire, parce qu'on sait que ça peut être extrêmement dangereux numériquement, et que tout est conservé malgré ce qu'on nous dit. On sait très bien que quand on efface, il y a toujours une trace, quand vous êtes un hacker, vous pouvez y accéder. Et là, le fait que quand même, ce qu'il y a de plus plus important en dehors de son intimité personnelle au niveau de ses proches, professionnellement parlant et compagnie, c'est la santé quand même. Donc on nous pose la question à nous en tant qu'usagers, si on est pour ou contre.
Et ça nous fera un énième formulaire à cocher, je consens ou je ne consens pas que telle ou telle donnée, un peu complexe ou pas, soit distribuée à un tiers. Pourquoi pas, effectivement. En tout cas, sujet passionnant, on y reviendra d'ailleurs, sur la conservation des données personnelles, notamment des données de santé. À suivre, chers amis, Macron, McFly et Carlito montent dans un bateau. Nous sommes dans le jardin de l'Élysée. Le président et les deux youtubeurs stars, des millions et des millions et des millions de vues, stars des adolescents. Est-ce que c'était déplacé pour Emmanuel Macron de s'afficher avec eux ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est bien joué pour parler aux jeunes ? Vous votez sur Twitter. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h.
Jean Dorido, remonté comme un coucou, est avec nous jusqu'à 19h sur Sud Radio. Caroline
suisse.
Pilastre, un coucou suisse, il est précis, il sera à l'heure. Caroline Pilastre également. Oui. Et Philippe Bilger, tout de suite, notre premier débat dans Les vraies voix. Nous parlons de cette vidéo qui a fait un énorme buzz d'Emmanuel Macron avec les youtubeurs McFly et Carlito. Nous vous posons une question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que c'est bien joué de la part du président pour s'adresser aux jeunes, ou est-ce qu'au contraire, c'est déplacé ? Un président ne devrait pas faire ça. Pour l'instant, vous êtes 89% à répondre que c'est déplacé à vos yeux. Vous nous appelez 0826 300 300. On vous donne la parole dans quelques instants sur Sud Radio. Je le disais, cette vidéo a fait le buzz. Emmanuel Macron avait promis de se livrer à un concours d'anecdotes avec les deux youtubeurs en échange d'un buzz précédent, des youtubeurs à sa demande, qui devaient faire une chanson sur les gestes barrières. Hier, du coup, Emmanuel Macron les a reçus, en tout cas publié une vidéo où il le recevait à l'Elysée. Il leur racontait des anecdotes, c'était à eux de deviner si c'était vrai ou si c'était faux. On écoute l'une d'elles.
Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Ça va ?
Très bien, et vous ?
Ça va super. Je suis avec McFly et Carlito là.
Eh bien, on vous adore Kylian, bravo, on vous aime.
Merci.
On t'aime, c'est incroyable.
Merci de fou.
T'es un monstre.
Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille.
Impossible.
Ça c'est beau.
Yes. Yes.
Oh, j'ai mais par contre.
Attends, par contre là j'ai...
Bon, il dit jamais.
Impossible d'aller à Marseille. C'est pas dans notre ADN ça.
Non, faites pas trop non plus.
Et cette scène rigolarde a eu lieu justement en plein palais d'Élysée. Ça va se terminer ensuite dans le parc magnifique au demeurant du palais de l'Élysée. Est-ce que c'est déplacé ou est-ce que c'était bien joué, Philippe Bilger ?
Alors, déjà le... la nature de l'activité ludique elle-même, je la trouve parfaitement invraisemblable. Mais après tout, pourquoi pas ? Agent de Kylian Mbappé...
oui, la devinette était facile.
Feignant une improvisation, mais laissons tomber tout cela. Je sais bien qu'on va en permanence m'opposer devant mon indignation l'air du temps. Et le fait que tous les présidents, peu à peu, ont fait quelque chose de similaire et que ça va s'aggraver. Précisément, je dis que, certes, Emmanuel Macron va convaincre une zone, une certaine jeunesse, qui va de 15 à 23 ans, mais il en existe d'autres. Mais il me semble que plus gravement, ce cynisme qui croit rattraper une tranche d'âge par des activités que j'ose qualifier de vulgaires, eh bien, est tout de même extrêmement déstabilisateur pour la démocratie. D'une part, ça va éloigner du rapprochement avec la politique un certain nombre de membres de la communauté nationale. Et d'autre part, et là j'accepte, j'aurai la contradiction et ça ne me gêne pas, je ne sous-estime pas le caractère préjudiciable de ce qui s'est passé à l'Élysée, parce que je crois que bizarrement, ça rejoint un petit peu la manière dont parfois Emmanuel Macron appréhende la politique sur le fond.
C'est-à-dire
que dans la politique d'Emmanuel Macron, et pas seulement sur le plan régalien, il y a quelque chose de fluctuant, de volatile, presque de ludique, qui n'est pas loin de correspondre à cette chose dont il ne faut pas surestimer l'importance, mais qui tout de même me perturbe. pour qui avait cru au Nouveau Monde, exceptionnellement avec lui, on a une certitude, c'est que s'il avait arrêté net cette dérive de la vulgarité présidentielle, là, le Nouveau Monde aurait été prêt.
Et vous regrettez l'ancien monde moins vulgaire ?
Non, il a été pas mal non plus. Sarkozy n'était pas un monstre d'élégance. Mais tout de même, lui, moi, j'avais cru bêtement au Nouveau Monde.
Eh bien, voilà, vous êtes déçu. 0-826-300-300. On va vous donner la parole, Jean de Rideau. On accueille David du côté de Toulouse. Bonsoir à vous, David.
Oui, bonsoir à tout le monde.
Et bienvenue à vous, cher Toulousain, champion d'Europe de rugby pour la cinquième fois de votre histoire. Vous avez fait la fête ce week-end ?
Ah, non, parce qu'on a, quand même respecté les restrictions.
Ouais. Pas comme à Lille.
Voilà. Pas comme à Lille. On va en parler dans quelques instants, justement.
Je n'ai rien dit.
Allez. En tout cas, on revenait avec vous, mon cher David, pour vous demander ce que vous aviez pensé, eh bien, de cette prestation présidentielle au sein du Palais de l'Élysée avec deux youtubeurs. Figurez-vous qu'il y a une vraie voix qui n'est pas d'accord avec vous. David, c'est pourquoi c'est l'heure du duel.
C'est l'heure du duel!
Mon cher David, vous êtes plutôt en phase avec Philippe Bilger, vous n'avez pas apprécié la prestation d'Emmanuel Macron. Jean de Rideau, lui, au contraire, est plutôt convaincu. On va commencer avec vous. Vous avez 30 secondes pour convaincre Jean de Rideau, David. Pourquoi ça vous a pas plu ?
Parce que ça m'a pas plu du tout, parce que pour moi, la jeunesse de France, c'est pas celle-là. La jeunesse de France, justement, elle était peut-être à Twickenham samedi, c'était Antoine Dupont, c'est Romain Ntamack. C'est cette jeunesse qui tire vers le haut, qui amène vers un idéal. Il y a d'autres youtubeurs, j'ai pas les noms, mais je pense que pour moi, la jeunesse, il faut la tirer vers le haut et pas l'amener vers le bas avec des pitreries. Franchement, moi, j'imagine pas le général de Gaulle faire ce genre de choses.
Là, c'est clair.
Voilà. Et après, bon, Jean de Rideau, oui, je sais, parce qu'il va nous amener sur le terrain de la psychologie et où il faut prendre les jeunes dans le sens du poil, il faut aller dans leur sens, etc. Moi, il me tarde le prochain. Alors, il me tarde le prochain épisode. C'est Emmanuel avec Rocco Siffredi ou Emmanuel dans un salon de proctologue, peut-être. Je sais pas. Voilà.
Pour vous, c'est de la télé-réalité sur YouTube, si j'ai bien compris. Restez en ligne, David.
Ça, tout à fait.
On va voir si le portrait chinois que vous avez fait de Jean de Rideau est justifié. Tiens, Jean.
Alors oui. Alors, est-ce que je vais emmener sur le terrain de la psychologie ? J'en sais rien. Moi, je suis touché par les propos de David. C'est vrai que c'est bon de tirer la jeunesse vers le haut. Toutefois, sur ce point, justement, McFly et Carlito. Bon, bah, les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas. Toutefois, on peut quand même signaler que c'est quand même pas Youssoupha. C'est-à-dire que le président a quand même fait mieux que la Fédération française de football. C'est des garçons qu'on aime ou on n'aime pas, mais enfin, voilà, ils sont plutôt rigolos. Ils ont fait OK Boomer sur Internet.
Ils sont plus consensuels, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, ils sont quand même, ils sont plutôt bien élevés. Ils sont plutôt, voilà, ils sont représentatifs d'une forme de jeunesse. Est-ce qu'ils l'attirent vers le haut ou vers le bas ? Ça, c'est à chacun d'apprécier. Et puis, c'est vrai que je respecte l'effort du président. On sait que les jeunes ne votent pas en France. Les joueurs de rugby auxquels fait référence David, qui ont très très bien joué ce week-end, je serais curieux de savoir de façon tout à fait anonyme combien accomplissent leur devoir citoyen d'aller voter. Il y a certainement des recherches là-dessus. J'aimerais bien savoir quels sont les engagements citoyens de ces jeunes, qui par ailleurs jouent très bien au rugby.
Ça vous parlez des rugby pour faire un monde.
Et donc oui, je respecte l'effort du président. Quant à la question de l'ère du temps et sur la question de la dignité du Nouveau Monde, on a connu Giscard d'Estaing allant jouer de l'accordéon et allant déjeuner chez les Français. Je ne suis pas sûr que ça tirait la politique vraiment plus vers le haut. On a connu, on le sait aujourd'hui, paix à son âme, les affaires très olé-olé justement de tous ces présidents. On le voit avec Mitterrand et Anne Pinjot. On le voit
ça, c'était privé.
Oui, c'est différent, ça, quand même. Tu peux parler de Chirac et ses baskets face à Madonna.
Ça sortait un peu dans les médias. Les diamants de Bocassa, n'en parlons pas. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut se méfier de ces raisonnements qui sont un peu la naphtaline, de se dire quand même, qu'est-ce qu'ils étaient bien, nos anciens hommes politiques. Avec tout le respect que pour le général de Gaulle, il y avait aussi des attitudes très discutables. Donc le président, il fait le boulot. Faut qu'il en profite parce qu'il va être remis sur la sellette en 2022. J'espère qu'on n'aura pas pire que ce qu'on a actuellement. Voilà.
David, bon, il nous a pas amené sur la psychologie. Le raisonnement sent un petit peu la naphtaline. Je vous laisse. C'était gentil de sa part. Je vous laisse
répondre. C'est un compliment.
C'est un compliment.
Bon, je sais pas parce que chez ma grand-mère, ça sentait surtout la lavande et pas la naphtaline.
C'est meilleur. C'est bien meilleur.
Ça sentait meilleur. Après, concernant ces deux youtubeurs, moi, c'est vrai, je trouve que. la fonction du président de la République. Bon, voilà, moi, j'aurais jamais osé tirer la langue au président de la République, mais bon, voilà. Bon, et vous avez parlé de ce fantastique rappeur pour la fédération.
Youssoufa.
Oui, voilà. Non, mais là, c'est sûr. Là, c'est hors catégorie, c'est hors niveau. Là, c'est stratosphérique, mais bon. Et après, concernant les rugbyman, je sais pas s'ils vont voter, mais par contre, concernant leur engagement citoyen, ouais, je vous engage à aller voir certaines choses qu'ils font. Ça fait beaucoup moins de bruit que nos deux youtubeurs, mais je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sont contentes d'avoir des Antoine Dupont, des Romain Tamac ou des un peu plus anciens comme Vincent Clerc.
Sur le plan de la générosité.
C'est pas sur Sud Radio, la radio du rugby, mon cher David, que nous dirons le contraire.
J'en profite, c'est pour ça.
Embrassez-les, vos champions d'Europe, en tout cas. On sent que vous avez été heureux de le remporter, cinquième titre. Merci à vous, David.
Merci à vous
d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Caroline Pilastre. Bon, vous êtes plutôt proche. Vous êtes autour de cette table, celle qui est la plus proche du public de McFly et Carlito. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a convaincu de voter pour vous après sa prestation ou pas du tout ?
De voter pour moi ?
Ouais.
Non, de voter pour lui. Ans, c'est
moi, j'ai voté
pour
Caroline, en tout cas.
De voter
merci
pour
beaucoup.
Lui.
Non, je ne m'arrête pas à ça. Alors, sans vouloir faire ma réac, honnêtement, j'ai trouvé cette séquence hallucinante parce que j'ai un rapport aussi aux institutions qui est très respectueux. Je n'aime pas le mélange des genres, pour tout vous dire. Je n'ai rien contre ces youtubeurs qui sont suivis par, comme vous le disiez, des millions de followers. C'était assez sympatoche. Mais... Ok, Monsieur Macron est un président jeune, un président branché, qui a voulu être dans le coup. S'il avait vraiment voulu jouer cette carte à fond du jeunisme, il avait qu'à, dans ces cas-là, porter un jean, des sneakers et un t-shirt et faire ça en dehors de l'Élysée. Et là, on aurait été à la cool attitude,
moi, de gagne totale.
Non, mais disons que l'Élysée m'a posé un problème. Ouais. Dans ce sens-là, on sentait qu'il voulait parler aux jeunes, qu'il avait envie de les rallier à sa cause. Mmh. Évidemment, pour qu'ils votent, il a pris 8 points auprès de la jeunesse. Maintenant, à savoir si ces jeunes vont voter pour lui, ce qui n'est pas forcément dire. Ils ont fait jusqu'à présent 8,5 millions de vues, ça va augmenter jusqu'à 15-20 millions. Donc, c'était un coup de com'. Est-ce réussi, pas réussi ? Moi, j'ai trouvé cette séquence un petit peu déplacée. Je n'ai pas été choquée outre mesure, mais je trouve honnêtement qu'actuellement, ce n'était pas vraiment d'à propos. Et la seule chose qui m'est réellement exaspérée, c'est qu'il leur a dit que lors de l'allocution du 14 juillet, il y aurait leur petite photo sur le bureau de l'Élysée. Ah bah ça, non.
Ça, c'était un engagement. Comme il l'a fait match nul avec McFly et Carlito, eh bien, eux, ils ont un défi qui est de faire un tour d'avion avec la patrouille de France le jour du 14 juillet. Lui, le jour de l'allocution, il y aura la photo de McFly et celle de Carlito, juste à côté du président de la République, quand il s'adressera à la nation. Philippe Bilger.
Je trouve que c'est lamentable et je vais battre ma coulpe. Ah. Ça rejoint même des vulgarités plus modestes. Un jour, quand j'étais avocat général, et ça reste un vrai regret chez moi, je sors d'un dîner relativement arrosé, une ambiance très sympathique, et j'ai à faire un réquisitoire le lendemain, et on parlait de séries à la télévision, Amour, gloire et beauté. Et comme un imbécile, je dis à l'une des femmes, je vous promets, demain, dans mon réquisitoire, je dirai Amour.
Vous avez
et
fait
comme
ça
un crétin, je l'ai fait.
Vous avez fait
bon,
ça.
J'espère n'avoir pas dérogé à l'honnêteté, à la rectitude de l'avocat général. Mais je devrais être plus indulgent à l'égard de certains paris.
Vous avez fait une dédicace dans un réquisitoire.
Non, mais c'est arrivé, Jean-Marie, de manière plausible.
Ça peut arriver, les journalistes.
C'était un univers, ça n'est pas un univers à la luxe, amour et beauté, mais c'est terrifiant. C'est arrivé, j'espère, de manière assez logique, mais c'était bête.
Écoutez, j'accueille à bras ouverts votre aveu, mais c'était quel type d'affaire ? Vous vous en souvenez ?
Une affaire de des coups mortels dans une cité où la misère était éclatante, quoi. Mais donc, vous voyez...
Vous avez respecté le pari.
Voilà.
Je n'étais
pas président, certes.
C'est vrai. Voilà. Et comme c'est ça. Écoutez, votre honnêteté est accueillie à bras ouverts. Cher Philippe Bilger, bon, écoutez, ça arrive, on en reparlera. D'autres coups de com', il y en aura toujours. Valéry Giscard d'Estaing, vous le disiez, qui prend son petit déjeuner avec des éboueurs pour montrer qu'il est proche des Français.
Oui, Jacques Chirac. C'est très différent.
C'est générationnel
aussi. Non,
c'est très différent.
On peut discuter, Jean, le caractère utile de... Mais il y avait quelque chose qui relevait tout de même d'un ressort politique. Oui. il n'était pas scandaleux de donner l'impression à la société française qu'il y avait là la reconnaissance d'une utilité sociale qui généralement est sous-estimée. Là, Carlito, on s'en fiche.
Ah, ils ont peut-être une utilité sociale, sans doute d'ailleurs. Ils ont une influence importante. Ils ont une utilité sociale.
Alors, Jean et Caroline ensuite. Oui, pardon.
Jean, l'utilité sociale d'un youtubeur, est-ce qu'il sert à quelque chose? Ce sont des clowns
ou c'est comme
une imitation? D'abord, même les clowns ont une utilité sociale, oui, même les rois avec leur bouffon. Et oui, avec autant de jeunes qui les suivent, ils ont de toute façon une utilité, ne serait-ce que de par leur influence. Mm-hmm. Le fait qu'ils soient avec le président, on peut espérer que ça va effectivement influencer positivement les jeunes. Quant à la politique spectacle, justement pour revenir à la cour du roi, déjà à l'époque, il y avait le lever du roi, le couchi du roi, est-ce qu'il a bien allé à la selle, etc.
Oui, enfin, je crois qu'il y a
toujours... Mais il y a toujours une nécessité de spectacle, de mettre en scène le pouvoir. Et là, on a un président qui met en scène un échange avec des jeunes influents.
Jean, c'est un pur clientélisme. Giscard d'Estaing va déjeuner ou inviter...
C'est clientéliste aussi, tout autant.
Mais non, mais il donne une importance à une profession qui est méprisée.
Malgré tout ça, reste une obligation, Philippe. Souvenez-vous, parce que là, vous ne l'avez pas donné, cette anecdote, mais Jacques Chirac avait bien porté des baskets. Jacques Chirac, qui portait peu de baskets, excusez-moi, quand Madonna est venue. Donc, c'était pour parler aussi à une certaine jeunesse. D'accord. On fait en fonction de sa génération. Ouais. Macron a 43 ans. C'est le président de la Startup Nation. Donc, il y a une corrélation avec les réseaux sociaux qu'il maîtrise à la perfection. Maintenant, je vous le dis, moi, je suis un peu plus jeune que Macron, mais je suis de la génération Macron. Et ça m'a un peu gênée, parce que j'ai eu l'impression vraiment que c'était une séquence de fiction, de télé-réalité. Surtout, il n'y avait rien d'improvisé. Donc, il y avait un peu quelque chose aussi de l'ordre de la manipulation.
Et le contenu était nul.
Oui, mais on ne peut pas aussi reprocher qu'il n'ait pas fait de politique. Ça n'était pas le moment pour avoir le fond politique.
On aurait pu, Caroline, traiter cette partie de la jeunesse autrement.
Entièrement d'accord. Et ne pas le faire à l'Élysée. Moi, c'est ça qui m'a choquée au niveau du lieu.
Dans un prochain épisode du président ou de ses adversaires sur YouTube avec McFly et Carlito, rappelez-vous, chers amis qui nous écoutez, le 14 juillet, vous aurez probablement une allocution présidentielle d'Emmanuel Macron. Regardez bien, à côté du président dans son bureau, il y aura deux petites photos. L'une, c'est McFly, l'autre, c'est Carlito. Je voulais chercher qui et qui sur Google. Si vous n'êtes pas adepte de YouTube, on vous posait cette question. Est-ce que c'était bien joué ou est-ce que c'était déplacé de la part du président? Vous répondez à 87% d'entre vous que c'est déplacé. Tout de suite, notre deuxième débat.
Les vraies voix Sud Radio.
Notre deuxième débat revient justement sur ces scènes de liesse. On en a un petit peu parlé, on parlait de Toulouse. Alors Toulouse, c'était très encadré pendant la victoire du Stade toulousain. Ça l'était un petit peu moins à Lille. Il y avait des milliers de personnes sur la grande place magnifique de Lille. Écoutez un petit peu l'ambiance. Ils sont des milliers, des milliers. Ça monte crescendo, Lillois, ils ont raison de faire la fête, sauf qu'ils sont des milliers, on est loin au-delà du couvre-feu, plus ou moins masqué, vous voyez aussi des images, parfois vous voyez des terrasses, on est plus massé. Est-ce que les Français ont laissé tomber les gestes barrières? C'est la question qu'on vous pose. Mireille, au 0826-300-300, bonsoir à vous Mireille.
Bonsoir,
merci de me recevoir. Et bienvenue à vous, ma chère Mireille, sur Sud Radio. Est-ce que vous avez l'impression qu'après cet interminable couvre-feu qui n'est toujours pas terminé, même s'il est repoussé, les Français sont en train de complètement laisser tomber les gestes barrières?
Ah, mais c'est plus qu'une impression. Écoutez, nous sommes dans une ville du Sud, par grande chance, il faisait très beau. Le jour de la réouverture, les terrasses étaient bondées, les tables les unes sur les autres. C'était ahurissant. Pas de gestes barrières, rien du tout. Les gens n'avaient pas le masque, bien évidemment, puisque les restaurants...
Si on boit un verre d'eau, effectivement...
Effectivement. Néanmoins, je dois dire que moi, je me suis rendue dans un petit restaurant que je connais, qui sert en patio, qui avait vraiment joué le jeu, qui avait séparé les tables. C'était parfait. Mais globalement, tout ce qui était en extérieur... C'était vraiment bondé. Oui. Les places étaient envahies de tables. D'ailleurs, il fallait se frayer un chemin entre les tables.
C'était compliqué, C'était très compliqué. Et en tout cas, vous trouvez que effectivement les Français sont en mode été. Alors vous avez de la chance, ma chère Mireille, on vous embrasse d'autant plus fort. Vous nous envoyez du rêve avec les terrasses de cette magnifique ville qui est Aix-en-Provence, il faut quand même le dire. Oui. Ça fait envie à tout le monde et vous avez raison d'en profiter. On vous embrasse, ma chère Mireille.
Ce que je voudrais ajouter quand même, c'est que là, nous étions en plein air. Ouais. Donc, ma stupéfaction, bien sûr, est liée. Mais le 9 juin, quand on va à nouveau intégrer, ouvrir
les bars à l'intérieur,
les bars et les restaurants avec les salles fermées, mais que va-t-il se passer ? Parce qu'il faut bien savoir que les restaurateurs ne peuvent pas survivre avec une jauge à 50%. Non. C'est impossible.
C'est vrai que ça va être compliqué. Et c'est vrai d'ailleurs, on le voit dans de plus en plus de reportages, y compris des reportages Sud Radio, les restaurateurs ont besoin, ils ne sont pas tiraillés entre la nécessité de faire attention et en même temps le besoin de travailler. Merci ma chère Mireille, profitez bien quand même de ce soleil magnifique d'Aix-en-Provence. On vous embrasse très fort en quelques mots, assez rapidement. Philippe Bilger, vous constatez un relâchement des gestes barrières, on est passé à autre chose.
Moi, j'avais l'impression que dans l'ensemble des activités quotidiennes où je peux remarquer le comportement des gens, j'avais l'impression qu'ils respectaient à peu près les choses. Mais évidemment, il y a les moments festifs, non pas que je les excuse, mais mon Dieu, je peux un peu comprendre que pour cet événement qui permet à Lille d'arrêter enfin la série du PSG... Les gens étaient heureux.
C'est vrai que vous avez une chance sur 10 au début de chaque saison d'avoir peut-être la possibilité de voir votre club champion, Jean ?
Oui, non, c'est sûr que oui, les gestes barrières diminuent pour tout un tas de raisons. Et en même temps, le grand public voit bien que les chiffres de l'épidémie sont plutôt encourageants. Le taux d'incidence baisse de façon d'ailleurs assez mystérieuse. Hein. Les savants les plus honnêtes reconnaissent que est-ce que c'est la vaccination ? Est-ce que c'est la vie naturelle de l'épidémie ?
Est-ce que c'est le soleil ? On peut pas dire que ce soit le soleil parce que
la vaccination, ça marche.
Donc clairement, les choses vont de mieux en mieux et le public
restons vigilants mais surveillants quand même. Ça a été long. Caroline,
il faut faire très attention. Moi, je suis inquiète. Mercredi, j'étais en terrasse avec un ami et c'est vrai que les gens respectaient assez. Par contre, dans les transports en commun, il y avait énormément de monde. On était toujours autant agglutinés. Ça n'a pas changé. Et j'ai eu des retours de copines qui ont fait les boutiques ce week-end. C'était de la folie. C'est-à-dire que véritablement, les gens, une fois de plus, étaient collés. Certains baissaient leurs masques en terrasse pour les restaurants. Ou les verres, les gens restaient un long moment sans les porter. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça reparte à la hausse et qu'on soit de nouveau confiné à la fin de l'été ou en automne, comme on peut entendre certains épidémiologistes ou infectiologues.
Pitié, ne nous gâchez pas.
Mais je le souhaite
cas,
pour nous
cet
tous.
Été. On le souhaite pour nous tous. On vous posait
ne
cette
faites
question.
Pas le professeur Pialou. Je vous
on vous posait cette question sur le Twitter de Sud Radio après ces scènes de liesse à Lille et puis ces terrasses bondées le week-end de la Pentecôte. Est-ce que les Français ont abandonné les gestes barrières ? Vous répondez oui à 51% d'entre vous, 49% vous dites c'est plutôt le contraire, vous êtes encore partagé. Restez avec nous dans un instant, Clément Barguin nous rejoint. Tiens, on va tester votre culture musicale à vous tous. C'est pour les rois de l'info, à tout de suite. Je
les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Les vraies voix Sud Radio, Caroline Pilas, Philippe Bilger, Jean Dorido et Clément Barguin qui nous rejoint. C'est pour les rois de l'info. Bonjour Clément.
Et oui, un roi de l'info spécial musique ce soir et on va jouer avec Christine qui nous appelle d'Alès dans le Gard. Bonsoir Christine.
Oui, bonsoir à tous et à toutes.
Alors,
bonsoir Christine, contente d'être avec
vous.
Voilà.
Et bien nous aussi. Alors vous jouez avec nous, les règles du jeu elles sont simples, 3 questions à chaque fois, 3 propositions de réponse, une seule est la bonne. Et pour jouer, d'accord. Christine, vous allez vous associer à une de nos vraies voix du jour. Vous avez le choix entre Caroline Pilastre, Jean Dorido ou Philippe Bilger. Qui choisissez-vous ?
Je vais prendre Jean Dorido, c'est mon chouchou.
Très bon choix.
Caroline, ouais. Merci et Jean, pour nous.
Christine. Non, je vous aime bien les autres aussi, mais...
Ah, merci, Jean, parce qu'on commençait à être vexé quand même.
Hein. Jean, on a bien compris que c'était son chouchou. Jean a du charme sur lui et voyez pas son torse.
Et bien, tous les deux, vous allez pouvoir jouer avec cette première question. On commence avec cette chanson qu'on a entendue tout le week-end. Voilà, de Barbara Pravi, représentante de la France à l'Eurovision, arrivée en deuxième position. Je vous propose pour cette première question de compléter les paroles. Écoutez cet extrait.
Voilà, juste ici, moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris, me voilà.
Me voilà, il faut compléter le texte. Me voilà, réponse 1, dans l'ombre et dans la lumière. Réponse 2, me voilà dans le bruit et dans le silence. Ou réponse 3, me voilà dans l'eau et sur la terre.
Christine.
Bah écoutez, au hasard, la lumière, je sais pas, hein.
Non, ce n'est pas la lumière,
c'est la réponse 1.
Oui, c'est la réponse 2, Caroline, c'est bien ça. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Je vous propose d'écouter la réponse en musique.
Voilà, juste ici, moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme...
cette chanson qu'on a entendue tout le week-end.
Sacrée interprétation quand même. Elle termine deuxième.
Ouais, mais moi ce week-end, j'ai cassé ma voiture, alors j'écoutais pas trop les
chansons. Allez, deuxième question pour vous rattraper.
On continue sur Roi de l'Info en musique, dans un tout autre registre. Deuxième question. Écoutez ces quelques notes de musique et attention, ça risque de vous surprendre. La question est simple. Où a été joué ce morceau de hard rock ? Réponse 1, dans les jardins de l'Élysée. Réponse 2, sur la place du Capitole pour la victoire du Stade Toulousain. Ou réponse 3, hier à Annecy lors d'un rassemblement contre le port du masque en extérieur. Christine.
Bon, je réfléchis un petit peu. Personne ne peut m'aider.
C'est pas le Capitole.
Non, c'est pas place du Capitole, c'est l'Élysée. Écoutez la réponse, c'était dans les jardins de l'Élysée. Écoutez bien.
C'était en compagnie de McFly et Carlito. Comment s'appelle ce groupe ?
C'était Ultra Vomit. C'est
Ultra Vomit. C'est un groupe nantais qui s'est
en tout cas offert un joli coup de projecteur.
Oui, jouer la souris verte en métal.
C'est ça.
Ça, c'est super.
Mais vous avez beaucoup chanté hier avec l'un de mes petits-fils.
Je suis désolé, ma chère Christine. Vous avez une bonne excuse, Christine, parce que vous avez cassé votre voiture.
J'ai cassé ma voiture.
Vous n'étiez donc pas devant McFly, Carlito, Ultra Vomit et Emmanuel Macron. Vous n'étiez pas davantage devant ni les autres de l'Eurovision.
Mais n'importe comment, Carlito et l'autre, je ne les aurais pas regardés.
Voilà. Bon, mais ça, c'est McFly, comme dans Retour vers le futur.
On offre quand même un mug à Christine.
Pour le principe, c'est pas trop grave, votre voiture. Non, ce sera, on va s'arrêter là, mon cher Philippe Bégère, malheureusement.
Bon, on continue.
Mais c'est pas trop grave pour vous, ma chère Christine, votre voiture, tout va bien là ?
Ma voiture est foutue.
Et la famille ? Tout le monde va bien ?
Non, mais il y avait que moi au volant et j'ai juste un petit peu de courbature, mais ça va, quoi.
Bon, prenez soin de vous, Christine. On vous
embrasse très, très fort, ma chère Christine. Faites attention à vous.
Bisous, bisous.
Restez bonne en ligne. Soirée. On vous retrouve au standard de Sud Radio. Vous allez nous donner votre adresse du côté d'Alès. On vous envoie évidemment un mug Sud Radio. Bon courage et à très bientôt sur Sud Radio. Les amis, les vraies voix Sud Radio reviennent dans quelques instants à suivre les vraies voix, justement. Gérald Darmanin qui porte plainte contre la tête de liste socialiste Audrey Pulvar. Est-ce qu'il a raison en pleine campagne des régionales? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h.
Le retour des vraies voix sur Sud Radio. Caroline Pilastre est avec nous, consultante dans le domaine du handicap visuel, présente, j'espère bien. Jean Dorido est présent lui aussi. Il ne brillera jamais par son absence. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Et Philippe Bilger qui brille par la parole en présentiel ou d'ailleurs à distance, ça lui arrive. Mais il est chez nous ce soir sur Sud Radio.
Un grand bonheur, on a beau dire, présentiel, le terme est atroce.
C'est ça.
Mais ça ajoute
qu'est-ce que
beaucoup.
C'est bon. Hein.
Le lien humain, la
génération.
Contredire Jean directement.
En face à face, pouvoir l'intimider physiquement pendant la pause.
Et
si
adouber
besoin
tous mes propos, Philippe. Oui. J'adore en direct.
Vous nous écoutez tous sur Sud Radio. Vous avez peut-être vous aussi enchaîné ces conférences vidéo avec des réunions pour le boulot, des apéros familiaux à distance et en vidéo. Qu'est-ce que c'est pénible. Rien ne remplace la présence physique. Tiens, parlons d'une belle présence physique. Ça se passe en ce moment, chers amis, la fête, et ça, c'est direction Lille. C'est en ce moment à Lille, figurez-vous, le trophée hexagone de champion de France qui a été ramené justement aux joueurs du Lille Olympique Sporting Club, le LOSC, champion de France pour la 4e fois de son histoire. Qui se serait imaginé voir les Lillois champion de France à la fin de la saison? On le sent venir depuis quelques semaines, on va pas se mentir, mais en septembre dernier, Philippe Bigère, vous suivez le championnat?
Ah bon, je fais que ça. Et à un moment donné, on avait du mal à y croire, parce que le Lille jouait moins bien, marquait moins bien, le PSG implacable, et puis heureusement, hier j'ai été fou de joie, quoi. Bon,
vous étiez Lillois?
Ah ouais, j'étais Lillois. Je n'aime pas les pachydermes friqués.
Le Paris Saint-Germain après Sierra, Jean-Dan Hido, pareil.
Oui, oui, non, bah, écoutez, alors, franchement...
j'aime beaucoup Mbappé, hein, oui. Attention.
C'est pas un pachyderme, lui, mais son club s'en est un. J'ai bien compris.
C'est une gazelle absolument irratrapable.
Une mobilette, mais ouais, il est sensationnel, Mbappé. Et non, c'est vrai que sur les analyses footballistiques, ça fait partie des rares domaines où j'ai tendance à rejoindre aveuglément les analyses de mon ami Philippe Bilger. C'est vrai qu'en septembre, on y croyait un petit peu moins, et puis bon, ils ont fait quand même une belle remontée. Et non, toute blague mise à part, c'est vrai que ça fait plaisir quand on voit, même avec toute la tendresse qu'on peut avoir pour le PSG, qui est un club avec une belle histoire, c'est vrai que cet argent presque obscène du Qatar, comme ça, injecté sans de vrais résultats pour le moment, ça fait presque plaisir de voir que le sport, le vrai sport, peut sortir grandi, surtout avec le LOSC, qui est un club populaire dans le bon sens du terme.
Et comme quoi, sur Sud Radio, on peut aussi embrasser les gens du Nord et les Lillois qui la méritent, cette victoire, et surtout ce titre. À suivre, dans les vraies voies, la justice qui s'invite dans la campagne des régionales. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui porte plainte contre la tête de liste Audrey Pulvar en Ile-de-France pour diffamation après ses propos sur les policiers. Est-ce qu'il a raison de porter plainte contre elle? Elle porte plainte à son tour contre lui pour dénonciation calomnieuse. Et puis dans quelques minutes aussi, direction une région en particulier, celle-là justement, l'Ile-de-France, où Audrey Pulvar est candidate, avec un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le JDD. Valérie Pécresse, vous le verrez, fait la course en tête au régional. Mais tout de suite, le tour de table.
Bonjour les enfants.
Vas-y, de quoi tu veux qu'on parle?
Comme je ne connais rien au sujet, je pourrais être tenté d'en parler abondamment.
T'as quelque chose à dire?
Je suis Darmanin.
Je ne suis pas très éloigné de Gérald.
Ah bon?
Oui.
Le tour de table.
De l'actualité.
Et on embrasse toujours Philippe David qui revient sur Sud Radio à partir de mercredi dans Les Vraies Voix.
Qu'on ait osé parler de foot sans lui.
Non, c'est difficile, mais il n'y a qu'à pas prendre ses vacances pendant les finales quand même. Faut
ça,
pas
ça va être de sa faute.
Philippe Bilger, vous connaissez la politique. Alors, et vous allez en parler. Vous vouliez justement parler de ces ministres qui s'immiscent assez rapidement dans la campagne.
Voilà, il y a le problème, évidemment, juridique. Ça n'est pas le moment d'en parler. Gérald Darmanin, donc, porte plainte. A annoncé son intention de porter plainte en diffamation contre Audrey Pulvar, mais il a senti la fragilité de sa position, puisqu'il dit « Je vise également des propos qu'elle avait tenus 2020. En 2020, c'est même ça. S'ils sont prescrits. »
On y reviendra.
Et elle aussi fait déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, alors qu'elle sait pertinemment, ou son avocat sait, que pour que la procédure en dénonciation calomnieuse prospère, il faut qu'il y ait un non-lieu, une relaxe ou un...
Et puis c'est bien, c'est
on
pas
fait
comme
perdre
si...
du temps à la justice,
c'est pas
quoi.
Comme si les tribunaux n'étaient pas croulés sous les dossiers, donc c'est bien.
Mais
très au-delà
de ça, Jean-Marie, vous avez raison, j'avais envie d'évoquer tout de même le fait que très peu de gens dénoncent cet état de choses. Je suis un peu choqué par le fait que des ministres sont sur des listes régionales, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, donc... inspiré par l'esprit partisan, sans nuance péjorative, mais qu'en même temps, ils sont ministres et engagent des actions ou profèrent des dénonciations, voire davantage, contre des gens qui sont directement leurs adversaires. Marine Le Pen est traînée dans la boue par Éric Dupond-Moretti, alors qu'en tant que garde des Sceaux, il y a une affaire qui la concerne. Il ne s'en mêle pas, certes, mais je pense qu'il n'est pas complètement indifférent. Et Gérald Darmanin engage une action contre Audrey Pulvar, alors que par ailleurs, il est sur une liste régionale. On joue sur deux tableaux. Est-ce qu'on est ministre ou est-ce qu'on est partisan? Est-ce qu'on sert tous les Français ou est-ce qu'on sert son camp? Moi, ça me choque.
Ça vous choque en tout cas. Sans revenir, chers amis, parce qu'on y reviendra dans le grand débat sur l'affaire qui anime Gérald Darmanin et Audrey Pulvar, des ministres en politique qui s'immiscent dans la campagne tout en restant ministre, par exemple.
Alors oui, là, c'est vrai que je trouve ça assez choquant. C'est vrai que c'est étonnant parce qu'en plus, on nous rabat les oreilles depuis un bout de temps maintenant sur le non-cumul des mandats, avec cette idée que vraiment un statut d'élu, un mandat d'élu ou un job de ministre, c'est vraiment un job à temps plein et on ne peut pas être au four et au moulin. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir, Caroline en parlait tout à l'heure à juste titre, ce fameux nouveau monde, Philippe en parlait aussi, on dit bon, bah alors ça va changer. Et non, on vous balance, on vous parachute comme ça, parce qu'il n'y a pas que Moretti et Darmanin dans les Hauts-de-France, il y a, je crois, de Montchalin, ouais, ou ouais, je ne sais quoi, enfin bon,
un certain nombre de ministres.
tous les premiers de la classe là, de La République En Marche. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est, je rejoins.
Ils ne peuvent pas faire les deux, en tout cas.
Bah, en tout cas, c'est choquant. Voilà, pour l'électeur de base que je suis, c'est choquant.
Ne soyons pas naïfs, hein, on le sait très bien, on est en pleine campagne électorale et on a la sensation qu'ils roulent pour eux-mêmes, en fait. Ils prêchent pour leur paroisse. Et c'est ça qui est assez terrible. On en revient au mélange des genres. Ouais. Et là, c'est de plus en plus visible. Et c'est ça qui est assez terrible parce que où est la fonction ? Où est la vocation, réellement? On se dit, en fait, c'est une course à l'échalote. C'est celui qui aura le bon mot, le dernier mot dans les médias, qui fera le buzz par moment. Et le cumul des mandats, mais il n'y a jamais eu de nouveau monde. Hein.
Non.
Une fois de plus, on ne va pas se leurrer. Hein. On est toujours dans l'ancien monde. Et parfois, la version est pire que la précédente. Alors, jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Mais moi, j'en ai marre et j'aimerais bien que la politique arrête d'être autant dévoyée parce que ça me pose un problème. Je le redis, j'aime et je respecte les institutions, qu'ils fassent leur travail. Il y a assez, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de l'intérieur. On est dans une situation sécuritaire intenable en ce moment. Les Français en ont marre. Quand vous parlez des sondages, on va en revenir. C'est le sujet majeur. Avant l'écologie, avant plein d'autres choses, parce que les gens ont envie d'être tranquilles quand ils sortent de chez eux et vivre paisiblement, que ce soit dans les villes ou en ruralité. Alors maintenant qu'ils arrêtent leur délire et qu'ils reviennent à de la politique et pas de la politique politicienne télévisuelle, parce que ras-le-bol.
Et on reviendra dans quelques instants avec Frédéric Dabi sur la campagne des régionales, notamment en Ile-de-France. On reviendra aussi sur la polémique entre Gérald Darmanin et Audrey Pulvar. On poursuit, chers amis, je vous le propose, le tour de table de l'actualité avec Jean Dorido, qui veut nous parler justement d'une histoire tout à fait saisissante.
Les vraies voix Sud Radio.
Ça a attiré votre attention, Jean Dorido, ça se passe en Suède, le syndrome des enfants endormis. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se passe ?
Eh bien écoutez, ça se passe qu'en fait, la psychologie, ça reste un vrai mystère, le cerveau reste un vrai mystère. Il y a en Suède des enfants qui s'endorment et qui basculent dans une vraie léthargie. Ça peut durer des mois, voire même le plus souvent des années. Ces enfants sont dans une espèce de coma, il faut les alimenter par sonde nasogastrique et pourtant, ça n'est pas du coma.
Ils dorment ?
Ils dorment. C'est pas vraiment du sommeil, parce qu'ils répondent aux stimulus extérieurs. Les électroencéphalogrammes, contre toute attente, ne révèlent aucun problème. Et pourtant, ils sont dans une léthargie. Ils sont comme endormis, impossible de les en sortir.
Ça dure combien
de temps ? Ça peut durer des années. Ils sont des centaines dans ce cas-là. Ça se passe uniquement en Suède. Ce sont uniquement les enfants concernés. Ce sont les enfants de populations migrantes qui sont demandeurs d'asile. Et c'est un vrai, vrai mystère.
Et comment les scientifiques, quelles sont leurs hypothèses ?
Ils ne comprennent pas. Ça rejoint, si vous voulez, a priori, le syndrome d'impuissance acquise. Ça, on connaît ça en psychologie. Quand vous empêchez quelqu'un de réussir, quand vous le mettez en situation d'échec systématiquement, la personne renonce. Et on a le sentiment que c'est la même chose dans une situation complètement extrême, parce que ces enfants, ils quittent la vie, ils s'endorment.
Ils renoncent à vivre.
J'entends déjà des mauvaises langues dire que peut-être ils jouent la comédie. Ça, ils sont unanimes. Mais savons, c'est impossible. Un gamin de 7-8 ans, il ne peut pas jouer la comédie pendant des années à ne répondre à aucune sollicitation. 24/24, c'est complètement dingue. Et alors, ce sont uniquement les enfants, uniquement en Suède, uniquement des familles de demandeurs d'asile, et pas n'importe quelle famille, ça touche spécifiquement les Yézidis, les Ouïghours et les anciens pays de l'Est, et du coup les savants essayent de comprendre, est-ce que ça a un rapport avec des traumatismes de l'enfance, est-ce que c'est peut-être la lourdeur des process suédois. Le seul truc, je dirais, rassurant, c'est que c'est réversible. C'est le Sunday Times qui a fait un gros dossier là-dessus,
ils c'était rendu par
Courrier International. Oui, ils peuvent se réveiller, quand ils sont régularisés. Là, il y a une jeune femme qui fait des études de droit très brillante, et donc elle est revenue à la normale, ça se fait en douceur, et quand on lui demande quel souvenir elle a de cette période, elle dit c'est comme si j'étais dans une espèce de rêve dont je n'avais pas envie de sortir. C'est complètement dingue.
Une histoire complètement incroyable que vous pouvez retrouver, chers amis, notamment sur Courrier International. Regardez, le syndrome des enfants endormis, c'est une histoire absolument invraisemblable et qui pourtant existe et qui se passe en ce moment en Suède. Les vraies voix à Sud Radio reviennent dans un instant. Philippe Bilger, Caroline Pilas, Jean Dorido, on est bien réveillés, tout le monde va bien dans le studio. Rassurez-vous, direction la région Île-de-France, vous le verrez, la candidate, la présidente sortante Valérie Pécresse fait la course en tête. Sondage Sud Radio, sondage IFOP Fiducial pour Sud Radio et pour le JDD. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h.
Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger qui se passionne pour la campagne des régionales. Ça tombe bien, on en parle tout de suite. Caroline Pilastre est avec nous et Jean Dorido. Nous retrouvons notre cher ami sur Sud Radio, Frédéric Davy. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir cher Philippe, bonsoir à tous.
Bonsoir à vous mon cher Frédéric, directeur général de l'IFOP. Sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et pour le JDD sur la campagne des régionales, c'est en Île-de-France. Et ce qu'il en ressort mon cher Frédéric, c'est que la présidente sortante Valérie Pécresse du Parti Libre Ancienne des Républicains caracole en tête, largement.
Oui, très clairement, elle est en position de force, il y a un vrai effet primo sortant. Elle est à 33% d'intention de vote. Ce qui est particulièrement spectaculaire, c'est qu'à la différence d'un Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France ou d'autres sortants, elle n'a pas d'adversaire. Dans le sens où l'adversaire qui obtient le score le plus important, c'est le Rassemblement National avec 16%, qui fera sans doute plus puisqu'on avait testé une liste Debout la France qui finalement ne s'est pas présentée. 15% pour Laurent Saint-Martin de La République En Marche et une gauche extrêmement éclatée. Ce qui frappe, c'est à quel point Valérie Pécresse a un électorat attrape-tout. Elle mobilise très bien la droite. Elle arrive à capter 3 électeurs Emmanuel Macron sur 10. Et clairement, elle est en position de force à un mois du vote.
Et les 3 candidats de gauche, vous le disiez justement, sont tous à peu près au même score, entre 11 et 10% pour les écologistes de Julien Bayou, pour Audrey Pulvar avec une liste du PS et Clémentine Autain, la France Insoumise et le Parti communiste. Le second tour, ça donnerait quoi ?
Alors, on n'a pas testé de second tour-là. On était sur une première enquête. On sera bientôt avec, bien sûr, des hypothèses de second tour. Ce qui est particulièrement frappant, et c'est comme au niveau national, c'est l'étiage de la gauche. En 2015, et pendant que ce n'était pas un bon cru, les listes Bartolone, Pierre Laurent, Emmanuel Coste faisaient à L3 40%. Là, on est à peine sur 31%. Et ce qui est aussi très compliqué, c'est de voir à quel point il n'y a pas aujourd'hui une logique de vote utile, puisque ces 3 listes sont à égalité. Bien sûr, ça va bien sûr bouger, puisqu'il y a une vraie volatilité. Je peux très bien hésiter entre un vote Autain un jour et un vote Bayou le lendemain. Ce sont des candidats proches idéologiquement. Donc dans ce cadre-là, c'est la moins bonne configuration pour la gauche. Il n'y a pas de dynamique, avec en plus, quand on a 20 points de retard sur Valérie Pécresse, un risque de démobilisation d'un électorat. On sait à quel point, avec ce scrutin abstentionniste, la participation sera le sésame.
Et il est impossible d'ailleurs de savoir qui arrivera en tête à gauche avec certitude, puisqu'ils sont tous dans la marge d'erreur, en tout cas les 3 candidats. Audrey Pulvar, Clémentine Autain et Julien Bayou, Philippe Bilger.
Frédéric, est-ce que pour rapprocher les 3 régionales qui m'intéressent tout particulièrement, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse, est-ce que ça ne montre pas évidemment d'abord l'importance de la position acquise, mais est-ce que ça ne signifie pas tout de même que ces présidentes régionales ont réussi ?
Oui, très clairement, je le dis souvent que ces élections régionales se sont municipalisées, dans le sens où, quand on regarde les motivations de vote, ce sont des motivations qu'on avait vues, Philippe, aux élections municipales, c'est-à-dire le bilan, le projet, l'incarnation, et ce n'est beaucoup moins que par le passé, un vote d'étiquette partisane qui pouvait, par exemple, favoriser, comme aux élections européennes, La République En Marche. Il y a clairement une prime aux sortants dans quasiment toutes les régions, puisque aujourd'hui, même si certains sortants sont en vraie difficulté, Renaud Muselier pour, par exemple, la droite, François Bonneau en région Centre-Val-de-Loire ou Marie-Guide Dufay, il n'y a pas aujourd'hui un sortant qui ait battu certains, puisqu'il y a cette prime aux sortants.
Ils ont tous une chance d'être réélus, y compris en Nouvelle-Aquitaine avec Alain Rousset, Jean Dorido.
Il est même ma favori.
Non, alors moi, justement, j'aimerais poser une question à Frédéric Dabi sur cette notion de prime aux sortants. Pour vraiment comprendre comment ça se passe, pour moi c'est un peu un mystère les élections régionales. Je me rappelle de Jean-Paul Huchon, qui était le président de la région Île-de-France pendant très longtemps. Je ne sais pas s'il est devenu ce monsieur. Oui, j'ai jamais eu le sentiment que c'était vraiment une tête d'affiche au Parti socialiste. Et pourtant, il a vraiment été.
Il était réélu.
Il a été un très bon directeur de cabinet,
président de région. Et j'aimerais comprendre quels sont les points communs, les différences entre le scrutin régional et typiquement les élections municipales et même les élections nationales, l'élection de présidentielle.
C'est une excellente question parce qu'elle montre l'évolution des choses. Vous avez raison, à l'époque de Jean-Paul Huchon, il n'y avait pas cet attachement à la région. La loi de 2015 n'était pas encore
si je puis dire, passé. Il y avait des raisons qui étaient mal identifiées, les compétences étaient mal connues. La loi de 2015 est passée par là. Le Covid est passé par là, où on a vu les présidents de région parfois suppléer les défaillances perçues à distance.
Commander des masques, par exemple.
De l'État central, commander des masques. On avait toute une série d'acteurs régionaux très fortement s'imposer. C'est en ça qu'elles se sont municipalisées. Les gens voient plus le bilan. Et vous voyez, quand il y a quelques années, on demandait à des Français quel est pour vous l'échelon territorial de trop. Une fois sur deux, c'était le département qui sortait. Une fois sur deux, c'était la région. Maintenant, ce n'est plus jamais, plus du tout la région. Elle s'est imposée.
Ça veut dire que les Français ont adopté la région. Caroline ?
Personnellement, je trouve que Valérie Pécresse a un bon bilan. Elle est assez appréciée en Île-de-France. Et justement, je trouve qu'elle regroupe le fond et la forme. Parce qu'on la voit avec parcimonie. C'est-à-dire qu'elle se montre quand il y a des événements en région parisienne. Il y a des coups de com', c'est normal, c'est de la politique. Mais elle n'est pas exposée à outrance. Et je pense qu'en dehors des régionales, c'est une femme qui a des compétences, des capacités depuis des années. Elle connaît bien l'appareil politique. Est-ce que vous ne pensez pas, Frédéric, qu'elle est surtout en train de préparer les présidentielles et que dans ce sens-là, elle a une bonne longueur d'avance sur Xavier Bertrand ou même sur Emmanuel Macron, parce que justement, elle peut rallier le centre droit et la droite, alors pas la droite dure qui va partir comme on sait chez Marine Le Pen, mais pas mal de macronistes.
Pécresse 2022 ou pas, Frédéric Dabi?
Oui, alors je comprends ce que dit Caroline, ça se tient très bien. Alors on va diffuser dans quelques instants une enquête IFOP fiduciale pour le Figaro LCI, dont bien sûr Sud Radio va être propriétaire, qui montre plutôt une avance pour Xavier Bertrand. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas mesurer pour l'instant l'effet de propulsion lié à une victoire très nette aux élections régionales. Si Xavier Bertrand l'emporte difficilement, voire s'il est battu, et si Valérie Pécresse apparaît comme la grande gagnante, ça peut changer les choses. Rappelez-vous, en 2004, Ségolène Royal.
Absolument, j'allais dire.
En Poitou-Charentes. Elle avait battu Jean-Pierre Raffarin par candidate interposée. Jean-Pierre Raffarin, chef de gouvernement à l'époque, ça avait beaucoup fait pour sa crédibilisation.
Et oui, et si Valérie Pécresse était candidate en 2022, en tout cas pour la présidentielle à suivre, on aura toutes les régions de France. On va continuer à faire le tour de France avec vous, mon cher Frédéric. Bien entendu. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio, directeur général de l'IFOP. À suivre sur Sud Radio, notre grand débat. Bon, on y revient de cette campagne des régionales. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, porte plainte contre Audrey Pulvar, tête de liste socialiste en Île-de-France, suite à ses propos sur la police. Est-ce qu'il a raison? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h.
Les vraies voix sur Sud Radio avec Jean Dorido, Philippe Bilger et Caroline Pilastre. Tout de suite, chose promise, chose due, notre grand débat.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Gérald Darmanin a-t-il raison de porter plainte contre Audrey Pulvar, la tête de liste socialiste dans la région Île-de-France? C'est la question qu'on vous pose. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. On accueille notre invité Denis Jacob. Bonsoir à vous, Denis.
Bonsoir.
Bienvenue à vous sur Sud Radio, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Gérald Darmanin, je le disais, qui porte plainte pour diffamation contre Audrey Pulvar suite à ses propos. Les propos qu'elle a tenus notamment sur la manifestation des policiers à laquelle vous avez participé d'ailleurs, Denis Jacob, la semaine dernière devant l'Assemblée nationale. Manifestation pour Audrey Pulvar qui était, je cite, soutenue par l'extrême droite et à laquelle elle a reproché qu'un ministre y ait participé, ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Elle a parlé d'une manifestation qui marchait sur l'Assemblée nationale pour faire pression, je la cite toujours, sur des députés en train d'examiner un texte de loi concernant la justice. Elle disait que c'était une image glaçante pour elle. Gérald Darmanin, qui porte plainte pour diffamation et qui a précisé par la suite, Denis Jacob, et j'en terminerai là, on va réécouter, par ajouter que cette plainte concernait aussi des propos passés qui datent d'il y a un an. C'était Audrey Pulvar pendant une manifestation antiraciste en juin 2020. On écoute.
La police et le racisme dans la police, c'est évidemment aujourd'hui Théo, c'est évidemment Adama, ce sont évidemment tous ces garçons et ces filles qui subissent et qui ont subi et qui parfois en sont morts. Justice pour les victimes du racisme et des violences policières, quels qu'ils soient.
Justice pour les victimes du racisme et des violences policières, quelles qu'ils soient. Alors je précise à nouveau, ces propos que vous venez d'entendre d'Audrey Pulvar datent d'il y a un an. A priori, si on attaque pour diffamation, mais Philippe Bilger me le confirmera, normalement des propos sont prescrits au bout de 3 mois, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être condamnée pour diffamation suite à cette vidéo. Est-ce que vous pensez qu'il a raison, Gérald Darmanin, de porter plainte contre Audrey Pulvar? Denis Jacob.
Oui, je pense qu'il a raison. Par principe, c'est une demande forte de mon organisation syndicale maintenant depuis plusieurs années, dès lors que nous avons des personnalités publiques, qu'elles soient politiques, people, qui vilipendent l'action de la police via les médias, doivent être poursuivies, parce qu'on ne peut pas diffuser un tel message de haine, globaliser des problèmes individuels marginaux en faisant une généralité de la police nationale. Et je pense qu'il était temps que le ministre tape du poing sur la table. Alors, il le fait avec Audrey Pulvar, ça lui appartient. Je ne vais pas rentrer dans le débat politique. Je pense que ça aurait pu être aussi contre M. Mélenchon, contre Omar Sy, contre Camélia Jordana, contre Assa Traoré, qui tous les jours tiennent des propos anti-flics. On ne peut pas dire ce qui s'est passé mercredi dernier, une manifestation où j'étais moi-même présent au titre de la CFDT avec mes partenaires du SCSI, dire que c'est une manifestation glaçante soutenue par le Rassemblement national alors que tous les partis politiques étaient présents. Que Madame Pulvar soit choquée par une scène en particulier qui a été faite par une organisation syndicale, c'est une chose. Mmh. Mais ce qu'a fait une organisation syndicale...
Vous parlez de vos collègues d'Alliance.
Ne veut pas dire que les autres organisations syndicales y souscrivent, que les choses soient très
alors,
claires.
Alors, deux choses, Denis Jacob, malgré tout. On parle de la diffamation. Effectivement, on aurait pu imaginer que Audrey Pulvar, qui parle du racisme de la police, notamment en faisant une confusion avec les gendarmes de l'affaire Adama Traoré, d'ailleurs, ils ne sont toujours pas condamnés, hein, il faut quand même le rappeler, malgré tout, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc c'est un peu... c'est s'avancer que de parler de racisme. Ça, c'est une chose. Sauf que c'est prescrit, du coup, la plainte ne peut pas aboutir. À côté de ça, est-ce que ça met dire d'une manifestation avec laquelle on n'est pas d'accord, qu'elle est glaçante et qu'elle est soutenue par l'extrême droite, est-ce que ça mérite une plainte en diffamation ? Qu'on soit d'accord ou pas d'accord ?
Moi, je pense que c'est attendu par les policiers parce que nous en avons assez que systématiquement ce type de personnes mettent en cause la police nationale dans sa grande généralité. Le ministre, il représente la police, c'est ce qu'on l'appelle
premier flic de France.
Le premier flic de France. Il est dans son rôle. Est-ce qu'il a raison ou tort ? Est-ce que c'est justifié ou pas juridiquement ? Moi, je suis pas juriste, ça m'appartient pas. Mais par principe, il doit le faire. Parce qu'on ne peut pas continuer à accepter qu'on laisse croire dans la population via les médias, parce que quand même, ce sont des millions de personnes qui entendent ces propos, ce sont des millions de personnes qui les lisent. Laisser croire que la police serait raciste, que tous les policiers seraient des fachos, et que ce serait systémique. Mmh. Ce n'est pas vrai. Qu'il y ait des cas individuels, et sur votre plateau, j'ai déjà eu l'occasion de le dire par le passé, il ne faut pas fuir nos responsabilités. Bien sûr qu'il y a des actes marginaux individuels inacceptables dans la police nationale, que ce soit de violence ou que ce soit de racisme, mais elle généralise systématiquement le propos, comme le font tout le temps nos détracteurs, et ça, c'est inacceptable.
Et c'est pour ça que vous en avez assez, c'est pour ça que vous soutenez en tout cas cette plainte. J'aimerais qu'on vous donne la parole au plus juriste d'entre nous, autour de cette table, le magistrat honoraire Philippe Bilger.
Pour une fois, je ne suis pas totalement d'accord avec Denis Jacob pour plusieurs raisons. D'abord parce que on se trouve devant une attaque très particulière, hein, qui ne relève pas d'une offense directe à la police et de ses comportements au quotidien.
Vous parlez de la vidéo, pardonnez-moi, ou vous parlez des propos qu'elle a tenus sur la manifestation ?
Sur la manifestation. Et par conséquent, Gérald Darmanin lui-même, pour justifier sa plainte, a été obligé de rappeler les propos qu'elle avait tenus en 2020, dont il sait qu'ils sont prescrits, mais pour expliquer sa dénonciation d'aujourd'hui. En revanche... Et c'est d'autant plus regrettable que vous avez cité, Denis Jacob, un certain nombre d'affaires à l'issue desquelles il aurait été souhaitable de déposer plainte. Par exemple, je pense à la scandaleuse formulation de Camélia Jordana, et c'est notre médiocre ministre de l'Intérieur de l'époque, Castaner, qui a décidé de ne pas déposer plainte. Donc je crois que c'est maladroit... Et de la part de Gérald Darmanin, d'avoir engagé une action qui est rien moins que certaine sur le plan juridique et qui n'est pas appropriée au rôle du ministre de l'Intérieur, dont j'ai dit tout à l'heure, mais je n'y reviendrai pas, qu'il ne devrait pas abuser du double jeu. Il est dans les régionales, il est ministre en même temps. Ça peut poser un problème.
Ça fait beaucoup. Vous allez répondre dans un instant, oui. Denis Jacob. Caroline Pilastre.
Écoutez, pour moi non plus, M. Darmanin n'aurait pas dû porter plainte, tout simplement parce que la plainte ne va pas aboutir. Maintenant, il est ministre de l'Intérieur, il défend sa police. Madame Pulvar n'a pas eu un mot de compassion vis-à-vis des policiers blessés, brûlés, morts. Elle a dit que c'était une manifestation d'extrême droite, hein, pour simplifier, mais enfin, c'était quand même une manifestation assez statique. Mmh. Les gens n'étaient pas là pour prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Il y avait aussi des gens de gauche, hein, qui sont venus soutenir la police.
Le secrétaire général du Parti communiste, par exemple.
Ils sont refait une Virginie.
Oui, elle a fait un mélange dans son discours. Moi, je suis assez scandalisée par ses propos, qui sont pour moi du buzz politique. Et elle n'a rien du PS républicain que j'estime, mais c'est plus la gauche de la gauche. D'ailleurs, une bonne partie de la gauche bien-pensante s'en est donnée à cœur joie, hein, de Mélenchon à Piolle, en la défendant et en lui donnant évidemment raison. Donc c'est assez compliqué et je pense que c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu actuellement. Et rappelons que Mme Pulvar n'est créditée que de 10% dans les sondages, hein,
pour
les régionales.
Comme les trois candidats, comme les deux autres candidats de gauche, aussi, entre 10 et 11%, on le rappelait dans les sondages IFOP fiducial pour Sud Radio. 0826-300-300, direction Perpignan, en pays catalan. Bonsoir à vous, mon cher Eric.
Oui, bonsoir.
Et bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que Gérald Darmanin a raison de soutenir ses policiers en portant plainte contre Audrey Pulvar ?
Alors moi, en tant que spectateur et citoyen,
Alors, je vous propose, mon cher Eric, qu'on vous essaie de vous rappeler d'ici quelques instants, parce que malheureusement, la ligne passe mal. J'espère qu'il n'y a pas un gros orage au-dessus de Perpignan en ce moment, mais on va vous rappeler, mon cher Eric, dans quelques instants, dès qu'on aura une meilleure liaison. Denis Jacob, vous êtes toujours avec nous ?
Je suis là.
Denis Jacob, je le disais, secrétaire général de l'Alternative Police CFDT. C'est une plainte pour le principe qui n'aboutira pas ? C'est tout ce que vous demandez à Gérald Darmanin dans cette affaire ?
Ce que je demande au titre d'Alternative Police CFDT, c'est que ce soit le premier acte d'un long épisode qui doit continuer à l'encontre de tous ceux qui tiennent de tels propos. Ça aurait dû, bien évidemment, et Philippe Bilger a raison de l'avoir rappelé, ça aurait dû être fait depuis longtemps pour tous les propos qui ont pu être tenus par le passé. Je vais être très clair également, et je suis pas forcément d'accord avec d'autres organisations syndicales, même si nous défendons des questions de fond, mais sur la forme, il y a quand même quelques différences. Il faudrait que vous réécoutiez le discours de la CFDT lors de ce rassemblement. Moi, je trouve qu'il était inopportun que Gérald Darmanin vienne à cette manifestation.
C'était pas sa place.
C'est pas la première fois que je le dis. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Bien évidemment que c'était ouvert à tous les élus de la République.
Alors il y a eu tout le monde. Hein, on peut refaire la liste avec vous d'ailleurs de tous ceux qui sont venus. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, le secrétaire général du Parti communiste, Monsieur Roussel, Yannick Jadot, l'écologiste, Yannick Jadot qui était presque l'un des seuls écologistes. On peut parler aussi de Jean-Marie Bigard, l'humoriste, Éric Zemmour, l'ancien Rassemblement National, Jean Messia. Bon, il y avait un peu de tout le monde.
Oui, complètement. Donc après que des représentants du gouvernement soient présents, personnellement, j'y étais pas particulièrement favorable. Oui. D'ailleurs, Éric Dupond-Moretti était prévu initialement et il n'est pas venu. Oui. Et Gérald Darmanin, qui avait prévu de passer un moment avec les policiers, n'a fait qu'un bref passage. Je pense qu'il y a un temps pour tout. C'était le temps des revendications et contrairement à ce que certains politiques ont dit, ce n'était pas un rassemblement d'hommage. Oui. Le rassemblement d'hommage avait eu lieu le dimanche à Avignon.
Vous parlez de votre collègue qui a été tué à Avignon.
Alors, on a
c'était une manifestation juste devant l'Assemblée nationale, en tout cas, et qui a ému une bonne partie de la gauche, pas que, puisqu'une autre partie était d'ailleurs présente. Jean Dorido.
Oui, non, c'est vrai que je trouve que la judiciarisation du débat politique n'est jamais enthousiasmante. Et c'est vrai que un ministre qui porte plainte contre une candidate aux élections régionales, j'aime croire qu'il y a des façons plus efficaces que ça pour un ministre de l'Intérieur de soutenir sa police, d'autant plus que c'est vrai qu'Audrey Pulvar, enfin, n'est pas un coup d'essai. C'est d'ailleurs, on pourrait, enfin, je ne connais pas cette dame personnellement, mais en vue de l'extérieur, c'est quand même assez névrotique, quoi, les postures qu'elle adopte.
On n'est pas obligé, quand on est psychologue, d'aller sur des allusions médicales.
Ben, c'est assez, non, c'est assez étrange, quoi, cette personne qui explique que quelqu'un qui prend un blanc qui prendrait part à une réunion racisée devrait être présent et se taire, qui remonte au calende grec. Je l'ai entendu sur la vidéo dont on avait diffusé un extrait, elle reparle de Malik Houssekine, enfin c'était en 1986.
Il y avait un mélange dans les comparaisons incroyables.
Enfin oui, je sais pas, alors
moi j'ai bien connu Jean il y a quelques années, elle était une personnalité très intelligente.
Mais quand elle était journaliste à la télévision,
c'est vraiment dégradé.
Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé.
On a compris
cette...
maintenant elle est totalement orientée, pour moi elle est à la gauche de la gauche.
On a compris que tous les trois, en tout cas, ce n'était pas votre tasse de thé politique, ou vous la préfériez éventuellement journaliste.
Il faut aussi rappeler, pardon Jean-Marie, qu'il y avait aussi beaucoup de citoyens de gauche et de droite qui étaient là pour soutenir notre police nationale. C'était ça le plus important.
En tout cas, il y en a eu un certain nombre, effectivement. 0826-300-300. On a retrouvé Eric avec une meilleure liaison. Vous avez survécu à la foudre, j'espère, mon pauvre Eric. Bonjour à vous.
Oui,
bonjour.
Oui, je me suis réfugié. Bonjour, je me suis réfugié dans ma voiture.
Mettez-vous à l'abri, mon cher Eric. Je le disais, le soutien à la police. Est-ce qu'il a raison, Gérald Darmanin, de porter plainte contre Audrey Pulvar?
Alors, j'étais très partagé. Alors, moi, c'était, pour tout ce qu'on a dit, c'était non, évidemment. Il n'avait pas à le faire, mais c'est surtout par rapport à l'importance qu'on donnait avec cette plainte à cette dame. Cette dame qui s'est affichée avec des familles de criminels, qui a dit que les Blancs n'avaient pas le droit à la parole, etc., 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 qui cherche à faire le buzz politique.
Mais elle fait campagne, elle fait campagne, cela étant
elle fait,
dit.
Oui, elle fait campagne, mais elle fait campagne. Elle fait campagne.
Elle n'est pas la seule, pardon.
Oui, mais elle fait campagne sur des morts. Comme il faudra de policiers assassinés pour ne pas mélanger la politique et la justice. Les policiers demandent quoi? Du respect, et surtout, comme je l'ai dit, de la justice pour eux, voilà, qu'ils fassent leur travail. Et cette dame, de dire ça, c'est insoutenable, quoi. Pour un citoyen normal, c'est insoutenable. On a besoin de policiers, on a besoin de vraie justice, et quand on voit nos hommes politiques, ou nos femmes, en l'occurrence, dire des choses comme ça, on se dit, c'est perdu.
En tout cas, vous n'êtes pas d'accord.
Et en fait, Jean-Marie, si vous le permettez, j'avais oublié, avec Denis Jacob, ça ressoude paradoxalement un petit peu autour d'Audrey.
CFDT, certains ont critiqué, comme Audrey Pulvar, une manifestation, je les cite à nouveau, trop proche de l'extrême droite, à laquelle vous auriez participé devant l'Assemblée nationale la semaine dernière. Est-ce que vous avez plus de problèmes avec une partie de la gauche, davantage qu'avec le reste du spectre politique, Denis Jacob? Est-ce que la police a un problème avec une partie de la gauche?
Avec l'extrême gauche, certainement, quand on connaît les propos réguliers anti-flics de Jean-Luc Mélenchon, qui ne manque pas d'ailleurs d'attiser cette haine anti-flic en jetant systématiquement de l'huile sur le feu, comme en disant par exemple que la force qui nous est conférée par la loi est forcément une violence illégitime. Donc quand on a ce genre de personnalité publique, d'ailleurs j'aurais aimé qu'on poursuive à l'époque Jean-Luc Mélenchon quand il tenait ce type de propos. C'est pour ça que par principe, la démarche de Gérald Darmanin, j'y souscris, mais il faut que ça suive avec d'autres personnalités qui pourraient se comporter de la sorte. Moi, j'ai pas de problème avec la gauche, et je vais même tout vous dire. Moi, je peux comprendre la position d'Olivier Faure qui dit qu'il faut pas toucher à la liberté d'expression et que Audrey Pulvar,
premier secrétaire du Parti socialiste.
Mais il faut aussi qu'Audrey Pulvar accepte qu'il y a en France des organisations syndicales et qu'elles ont des droits, notamment le droit de s'exprimer également pour porter des revendications. Qu'elle ne soit pas d'accord, c'est son droit, mais qu'elle stigmatise tous les policiers en disant...
Est-ce qu'elle a le droit de dire que c'est glaçant, par exemple? On va aller jusqu'au bout. Elle a dit que c'était glaçant.
Oui, mais je sais pourquoi elle a dit que c'était glaçant.
Est-ce qu'elle a le droit de le dire ou pas? Oublions que c'est elle, oublions que c'est vous. Est-ce qu'elle a le droit de le dire ou est-ce que ça mérite une plainte?
Mais bien sûr qu'elle a le droit de le dire, mais elle ne peut pas parallèlement dire que c'est une manifestation glaçante soutenue par le Rassemblement national. Parce que ça voudrait dire que tous les policiers sont du Rassemblement national. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Qu'elle dise qu'elle a trouvé que la manifestation était glaçante en lien avec une certaine vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux
et qui date d'il y a un an.
Non, je parle de cette vidéo de mise en scène sur la manifestation du 19, que moi j'ai découvert après la manifestation.
Je reprécise d'ailleurs, vous ne l'avez pas vu, c'était vos collègues du syndicat Alliance, un autre syndicat, prof de la CGC, avec quelqu'un déguisé qui traînait un balai, qui balayait les morts, il y avait marqué justice, ça vous a choqué aussi, quoi.
J'ai trouvé ça particulièrement indécent de caricaturer un drame comme celui-là, que de tuer un policier quand on sait que 15 jours avant, Éric Masson s'était fait froidement tuer.
Et vous trouviez que c'était le mauvais coup.
Et pour répondre à votre question vis-à-vis de la gauche, nous avons eu une visioconférence la veille de notre manifestation avec Olivier Faure et son staff, avec l'intersyndicale, pour discuter des questions de sécurité. Et j'ai à nouveau un rendez-vous la semaine prochaine, à nouveau avec le staff d'Olivier Faure, pour discuter des questions de la sécurité.
Donc vous parlez aussi avec tous les partis, et vous parlez aussi à la gauche, c'est ce que vous vouliez dire. Merci à vous.
Les partis républicains, si vous me permettez.
Tous les partis républicains. Merci à vous, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Nous vous posions cette question dans le grand débat des vraies voix. Gérald Darmanin a-t-il raison de porter plainte contre Audrey Pulvar? Vous répondez non, mais ça a été très partagé. La tendance s'est inversée à plusieurs reprises. Vous répondez non à 52% d'entre vous. C'est assez rare que vous soyez si hésitant dans le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Restez avec nous, chers amis. Il est temps qu'on se détende. On va essayer de vous trouver l'astuce imparable pour avoir de la place en terrasse. Vous qui en cherchez jusqu'à 21h, c'est Clément Barguin et son clin d'œil. Il a découvert une application miracle. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h.
Les vraies voix sur Sud Radio. Jean Dorido qui se désinfecte une dernière fois avant la fin de l'émission. Mais on vous dit tout, vous pouvez le voir sur le Facebook Live de Sud Radio, surtout en cette période de pandémie. Caroline Pilastre est toujours avec nous, Philippe Bilger également. Clément Barguin nous rejoint pour le clin d'œil des vraies voix. Clément, il est presque l'heure d'essayer avec modération de profiter des dernières terrasses avant le couvre-feu.
Il est temps d'y aller.
Allez-y.
Plus que 2 heures et on va vous parler d'une application inédite en France qui peut s'avérer très utile en ce moment. Alors, vous le savez, les terrasses sont rouvertes depuis mercredi dernier. Il peut s'avérer compliqué, voire même très compliqué, de trouver une place. Mais si vous êtes du côté de Lyon, il existe une application magique, Go No Gones, qui vous permet de trouver en temps réel une place en terrasse. Il fallait y penser. Et derrière cette idée assez géniale, Arthur Ming, qui est étudiant en deuxième année à l'EM Lyon, est président du Petit Paumé. Bonsoir Arthur.
Bonsoir, merci à vous et à tous les auditeurs.
Bienvenue sur Sud Radio. Donc si je comprends bien, votre application elle est géniale. On est à Lyon, on cherche une place pour aller trinquer avec nos vraies voix et on peut télécharger votre application pour trouver une table. Comment ça fonctionne?
Exactement, donc c'est une application complètement gratuite, Gonogone, qui a été créée entièrement par le Petit Paumé, donc une association lyonnaise. Tout simplement en réponse à un problème simple, je pense, auquel on a tous été confrontés, et ça dans toute la France, c'est que d'un côté, on a des gens qui ont tous hâte de retrouver les terrasses, et tout particulièrement à Lyon. Et de l'autre côté, on a malheureusement des établissements en difficulté. Tous n'ont pas pu réouvrir le 19 mai.
Du coup, comment ça se passe? Je cherche une terrasse, je suis avec des amis. Comment je fais? Comment je peux participer à votre projet?
C'est ça. L'application, en fait, elle est utile à deux moments. Elle est utile dans un premier temps, lorsqu'on est encore chez nous, justement, avant de se décider à aller à tel ou tel endroit, on va regarder sur l'application, voir dans quelle terrasse il reste des places ou non. Donc là, on fait notre choix, ensuite on y va, sachant qu'en plus, nous, on a vraiment voulu apporter énormément d'informations sur l'application, donc il n'y a pas seulement l'information plein ou pas, il y a aussi il y a les critiques du Petit Paumé, il y a des informations comme la gamme de prix, il y a des photos, il y a l'adresse avec une carte interactive, etc. Donc ça, c'est dans un premier temps, on choisit un peu la terrasse et on voit qu'il y a de la place. Et l'idée, c'est qu'ensuite, c'est une application vraiment complètement collaborative. Donc une fois qu'on est sur place, qu'on est sur le terrain, si l'on peut dire, qu'on est soit assis en terrasse, soit qu'on se promène dans les rues et qu'on voit les terrasses, on peut à notre tour signaler et informer les autres utilisateurs du niveau d'affluence sur les terrasses. Voilà. En fait, on s'est dit que c'était comme si on avait notre pote au téléphone et qu'il nous demandait est-ce que je peux venir ou pas. On lui répond de la même façon. Il y a 4 indicateurs. Donc soit on lui dit c'est complètement mort parce que la terrasse est bondée. Soit il y a moyen et tentez votre chance. Et on peut aussi lui dire c'est plein de places. N'hésitez pas à venir.
Juste pour conclure, parce qu'on arrive au terme des vraies voix, cher ami, est-ce que c'est l'équivalent pour les terrasses de Vite ma dose qui fait la même chose pour les doses de vaccin?
Alors c'est effectivement c'est un peu l'idée l'idée de l'application avec peut-être quelque chose d'un peu plus festif et convivial et qu'on avait à cœur de proposer à Lyon pour les Lyonnais en tant que Petit Paumé, association d'étudiants.
Bravo. Bravo, en tout cas, vivement l'ouverture.
C'est une super application.
Bientôt à Paris.
Gonogone, on espère. Vive les Gones. Après Gonogone, peut-être Gono-Parigo, Bono-Marseillais, Gono-Bordelais, Bono-Toulousain.
Excellente initiative, c'est ça, sur tout le territoire.
Bravo à vous, en tout cas, merci à vous, Arthur Minck, d'être intervenu sur Sud Radio, président du Petit Paumé, pardonnez-moi, et fondateur de cette application Gonogones, Gones comme les Lyonnais, évidemment. Merci Clément Barguin pour son clin d'œil. Merci. Et Caroline Pilastre, et Jean Dorido, et Philippe Bidger, qu'on retrouve demain pour Les Vraies Voix Sud Radio à partir de 17h et ce jusqu'à 19h, la suite de votre soirée, Les Voix de la Politique dans quelques instants. Tiens, est-ce que la gauche a un problème avec la police? On en parle dans un instant, à tout de suite.